Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Une fois n'est pas coutume, nous allons beaucoup parler de l'actualité de Samsung cette semaine. Le meilleur ennemi d'Apple a dévoilé mercredi sa nouvelle gamme de produits, avec entre autres des téléphones pliables, des montres, des écouteurs, mais aussi sa première bague connectée. Est-ce un concept intéressant? On en discute avec Christophe. Dans le reste de l'actu, les rumeurs vont venir une Apple Watch moins chère, Samsung va faire payer ses services d'IA et Cupertino met des bâtons dans les roues d'Epic. Nous sommes le samedi 13 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas louper. L'événement de la semaine, ce n'était pas la sortie du Vision Pro en France, mais bien le grand événement Galaxy Unpacked de Samsung. Salut Christophe, ça va? Est-ce que t'as bloqué ton mercredi après-midi pour regarder le keynote de Samsung?
Salut Félix. Non, mais on s'aperçoit qu'on se rapproche quand même dangereusement des vacances pour qu'on se retrouve à s'intéresser autant à Samsung. C'est qui
oui, ouais.
Mais d'ailleurs, par rapport à ton intro, est-ce que Samsung est encore le meilleur ennemi d'Apple en 2024? Ça, je sais pas.
Oui, c'est une bonne question.
Le méchant fin de niveau, c'est je vois plutôt l'Union Européenne en ce moment.
Oui. Comme je le disais, Samsung a dévoilé cette semaine toutes ses nouveautés pour 2024. Le Coréen a notamment présenté sa 6e génération de smartphones pliables. Les appareils ne réinventent pas la roue, étant donné qu'ils apportent principalement une meilleure autonomie et une puce plus puissante. Donc on a vu mieux. On a aussi eu droit à de nouveaux écouteurs et à de nouvelles montres, mais le plus intéressant était sans doute la Galaxy Ring. Donc il s'agit d'une bague connectée qui mesure tout un tas de facteurs, comme la fréquence cardiaque, les mouvements pendant la nuit, l'oxygène dans le sang et bien d'autres. Christophe, une bague connectée Apple pour remplacer ton Apple Watch, t'achètes?
Bonne question. Mais avant toute chose, tu disais que les nouveaux téléphones pliables de Samsung se contentent d'avoir un processeur un peu plus puissant, ce genre de choses. Moi, je continue à être persuadé qu'il y a un véritable marché pour Apple et que Apple pourrait faire exploser le prix de l'iPhone. Et voilà. Et pendant que Samsung en est à peaufiner, repeaufiner son concept, Apple est toujours nulle part et les rumeurs ne disent sans doute rien avant, je sais pas, 2026, 2027.
Ah oui, non, je pense que c'est des produits intéressants, mais c'est vrai que là, niveau nouveauté, il n'y a vraiment pas grand-chose, dans le sens où même dans leur FAQ, ils t'expliquent les différences entre le Fold 5 et Fold 6, t'as une ligne et demie.
Oui, non, mais bien sûr, les modèles, en soi, ça ne renverse pas d'homme, mais c'est vrai que là, on voit quand même qu'ils arrivent à un certain point dans leur développement, alors que chez Apple, on attend toujours.
Ouais.
Et quand on voit... L'investissement technologique qui a été mis dans le Vision Pro, ce qu'Apple a été capable de faire sur un tel produit, Je me dis que quand même un iPhone pliable, c'est quand même dans la mesure du possible.
Ouais.
Bon, alors, est-ce qu'il faut remplacer son Apple Watch par une Apple Room, une Apple Ring, hein, c'est comme ça peut-être qu'on l'appellerait. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait nouveau, hein, il y a quand même, depuis quelque temps, je vais faire 2-3 années, une petite hype autour des objets connectés sans écran. Alors ça prend traditionnellement deux formes. Il y a le Whoop qui prend, donc c'est un bracelet. Donc pour celui qui ne connaît rien, on a juste l'impression que c'est un bracelet, comme un accessoire de mode. Voilà, et ça marche pas mal. Et il y a effectivement les bagues connectées, notamment Oura qui connaît également un certain succès. Alors le problème avec ces deux produits, non seulement il faut les acheter, mais en plus il y a un abonnement derrière. L'abonnement, et voilà, c'est soi-disant pour étudier tes données de santé. Et c'est ce qui rend d'ailleurs l'offre de Samsung intéressante, c'est-à-dire qu'on achète la bague et a priori, en tout cas pour le moment, il ne faut pas se payer d'abonnement.
Ouais.
Moi, ce que je trouve assez fou avec les bagues, c'est que, enfin, malgré leur position, hein, parce qu'on est quand même à l'extrémité de l'extrémité du corps, on peut pas faire pire, hein. Elles arrivent à remonter des données assez précises. Et ça, déjà, on le voit que c'est des fois c'est galère avec une montre alors qu'elle est positionnée sur le bras. Alors voilà, sur un doigt, ça doit pas être simple. Donc moi personnellement, je ne troquerai pas mon Apple Watch contre une bague, mais il y a effectivement sans doute un marché. Il y a ceux qui veulent, par exemple, garder leur montre traditionnelle, mais aussi avoir un objet connecté pour traquer leur santé. Il y a ceux qui veulent peut-être un objet plus discret qu'une montre connectée. Et souvent, d'ailleurs, l'autre avantage de ces produits, c'est qu'ils n'ont pas d'écran. Et donc, puisqu'ils n'ont pas d'écran, ils ont souvent une bien meilleure autonomie. Je crois que le modèle de Samsung, ça se compte, enfin, c'est à peu près l'ordre d'une semaine. Ouais. Donc, c'est beau par rapport à une Apple Watch, hein, même si c'est pas évidemment les mêmes usages. Alors, Donc pour répondre à ta question, enfin, même si j'ai répondu, tu dis, alors est-ce que un Apple Ring, ce serait intéressant à la place de l'Apple Watch? Enfin, moi, je connais Apple, hein. Je reformulerais la phrase et je dirais en complément d'une Apple Watch. Ouais. Ils sont largement capables de t'inciter. T'as l'Apple Watch, mais si t'as Apple, Apple Ring, c'est encore mieux. Mm. Mais si Apple veut sortir une bague, il va falloir aussi, je pense, un petit peu muscler son offre logicielle. Alors, on sait que la nouvelle version de WatchOS inclut une application assez intéressante qui s'appelle... C'est Signes Vitaux, hein, je crois, en français. Hein.
Oui. Ouais.
Alors c'est très intéressant. Bon, c'est qu'un début. Alors beaucoup s'étonnent d'ailleurs que l'application ne prend pas en compte pour le moment la HRV, donc la variabilité cardiaque. C'est une métrique qui est utilisée à peu près par tous les concurrents d'Apple. Mmh. Alors, est-ce que c'est, on va dire, est-ce qu'Apple n'a pas confiance dans cette métrique, en tout cas dans la façon dont l'Apple Watch la mesure, peut-être. Est-ce que c'est peut-être lié à une nouveauté qui arrivera dans les prochaines Apple Watch à la rentrée? On verra, c'est possible. Quoi qu'il en soit, voilà, si vraiment Apple veut sortir une bague santé par rapport à ce que je disais avant, donc il va falloir quand même rendre l'application, il va falloir la muscler un petit peu. Ceci dit, et c'est sans doute l'écueil de bon nombre de produits, en tout cas c'est le cas du Whoop, c'est une véritable usine à gaz. Tu es perdu dans un déluge de chiffres. Le bracelet te pose en permanence des questions sur est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as bu, est-ce que tu as consommé de la drogue, c'est un truc, ça n'arrête jamais. Et à la fin, tu dis, enfin, il y a un côté un petit peu. Enfin, moi, j'en ai testé un pendant un mois. Ouais. Et moi je trouvais que, enfin, il y avait vraiment un côté trop d'informations qu'une information.
D'accord, ouais, je vois le genre. Après, il y a aussi la question du confort d'une bague. Je ne sais pas si ce serait confortable d'avoir une grosse bague au doigt comme ça. Faudrait voir s'ils arrivent à faire un truc suffisamment fin et agréable à porter.
Tu sais, il y en a qui se mettent un casque sur les yeux, donc une bague.
Oui, c'est vrai. En plus d'une bague, Samsung a également lancé sa Galaxy Watch Ultra, qui n'est pas sans rappeler un modèle similaire du catalogue Apple. La montre embarque un boîtier en titane de 47 mm, un bouton d'action, un geste de double pincement, un mode nuit avec un éclairage rouge, un GPS biband. De son côté, Apple arrivera cette année à la série 10, et certains pensent que Cupertino va nous refaire le coup de l'iPhone 10 avec son nouveau design. Christophe, est-ce qu'elle t'intéresse, les montres Samsung ?
Les caractéristiques, en tout cas, de cette montre, elles sont quand même... Hein...
Oui.
Ils ont été très créatifs sur ce coup-là.
Ah bah là, oui.
Alors, j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser, mais d'après les retours que j'ai eus de nombre des testeurs, en tout cas pour le sport, les montres donc équipées de Wear OS, elles sont souvent un cran en dessous en termes de précision, notamment pour tout ce qui est sport et santé, donc je suis pas forcément hyper intéressé par ce genre de produit. En tout cas, tant mieux s'il y a de la concurrence, c'est déjà une première bonne chose, une première chose. Moi, à titre personnel, si j'avais à troquer mon Apple Watch, je crois que de toute façon, je partirais plutôt sur une montre sportive connectée de type Garmin ou Coros, enfin une montre en tout cas pour laquelle, parce que c'est quand même le truc, maintenant que j'ai une Apple Watch Ultra qui va bientôt avoir 2 ans, la question de l'autonomie me fatigue un petit peu quand même. Dès que tu utilises quand même à fond les capacités de la montre, tu te retrouves à la recharger finalement tous les jours. T'as pas l'impression d'être bien plus avancé qu'avant.
Et tu sens l'autonomie qui descend avec les années, parce que mine de rien, là, en 2 ans, j'ai eu la mienne en même temps que toi à peu près, et c'est vrai que là, je vois, elle tient plus le week-end, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça le souci. Et il y a cette histoire des 80%, notamment sur les iPhones, où Apple te propose de charger ton iPhone à 80% en permanence et pas de dépasser cette limite-là pour améliorer la longévité de la batterie. Mais je pense qu'Apple, en fait, devrait faire le contraire, c'est-à-dire qu'elle devrait te donner une batterie, on va dire, à 120%, mais que tu ne puisses jamais utiliser plus de 100% de cette capacité-là pour qu'elle ait une durée de vie plus longue. Et pour que la promesse qui est annoncée, on va dire, le jour J, 2 ans plus tard, elle soit encore à peu près valable. Ça, je pense que ça serait un vrai progrès. Bon, mais remontons d'abord à cet Apple Watch. Donc, il y a un point, en tout cas, que Gurman ne sait pas, c'est à savoir si le modèle qui sortira à la rentrée, est-ce que ça sera l'Apple Watch des 10 ans ou est-ce qu'il faudra attendre l'année prochaine? Parce que l'Apple Watch, effectivement, a été présentée il y a 10 ans, mais elle a été commercialisée que l'année suivante. Enfin, ça fera 10 ans qu'en 2025.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, enfin, on va quand même bien l'appeler Series 10, hein, parce que si Apple respecte sa numérotation, ce sera une Series 10. Mmh. Bah, ça risque quand même d'être une montre très très sympa, avec notamment cet écran qui devrait être aussi grand que celui de l'Ultra. Donc vraiment là, les bordures ont été, je pense, enfin, devraient être réduites au maximum. Et en plus, le design est affiné. Alors si l'autonomie n'en souffre pas trop, tout ça, en tout cas, rend le produit très intéressant. Alors, l'inconnu à l'heure actuelle, même si enfin il y a quand même des rumeurs contradictoires, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux capteurs ou pas. Ouais. On sait qu'Apple travaille depuis des années sur la mesure de la tension, sur le suivi des apnées du sommeil. Voilà, on sait que c'est normalement dans les tuyaux. Est-ce que c'est cette année ou pas cette année? Je n'en sais rien. Mais ne serait-ce que le fait qu'il y ait ces petits changements, entre guillemets, en termes de design, moi, je suis assez persuadé que c'est un modèle qui pourrait, en tout cas, très, très bien se vendre. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être à l'heure actuelle, je sais pas, une série 4, 5, 6, 7, qui vont se dire, ah ben voilà, ça c'est le moment pour switcher. On sait également que Apple travaillerait sur, et mettrait enfin à jour l'Apple Watch SE. Ce qui est quand même pas mal parce que ça fait quand même un certain temps qu'elle est au catalogue. Alors la grande question, a priori, Apple testerait un modèle en plastique. Ça permettrait de faire baisser les coûts. La question par contre écologique, d'un point de vue écologique, c'est quand même
c'est
moyen quand même. Hein.
S'il y a un domaine où Samsung a pris de l'avance, c'est bien sur celui de l'IA. L'entreprise a rapidement dégainé son label Galaxy AI, qui englobe différentes fonctions, servant par exemple à manipuler du texte, à le traduire ou encore à refaire de la retouche photo. Tout cela n'est pas traité en local et passe par des serveurs qui ne sont pas gratuits à faire tourner. Samsung a récemment revu la formulation sur son site et sous-entend que les services d'IA deviendront payants à partir de 2025. Christophe, est-ce que tu penses que les gens sont prêts à payer pour des fonctions d'IA? Parce que c'est des services auxquels ils ont eu accès gratuitement pendant pas mal de temps.
Tu connais Apple iCloud plus Intelligence, la nouvelle option payante d'iCloud. Ceci dit, enfin, il faut quand même... déjà, il y a les services IA sont... Enfin, pas tous, mais quand tu commences à les utiliser au bout d'un certain moment... quand tu commences à les utiliser de manière, on va dire, intensive, ils finissent par être payants. Hein, et donc,
oui.
Sachant que Apple ou d'autres utilisent des serveurs externes pour toi, moi je pense que c'est évident que tôt ou tard, il y aura, on va dire, une IA de vitesse. D'ailleurs, c'est un peu le cas dans la façon dont Apple nous l'a présenté lors de la WWDC. Hein. C'est-à-dire que pour des fonctions de base, ce sera bien évidemment gratuit. Mais dès que tu voudras faire des choses un petit peu poussées, évidemment, il faudra mettre la main au portefeuille. Alors, est-ce que tu auras des forfaits ou tu paieras à usage, j'en sais rien. Mais finalement, c'est une sorte de modèle, on va dire, freemium. Mais Internet a toujours fonctionné un petit peu comme ça. Enfin, si tu regardes le mail, si tu as une utilisation basique du mail, tu peux utiliser un service gratuit. Par contre, si tu gardes tous tes mails, tu as une utilisation qui ne sera qu'un tout petit peu intensive de ce service-là, là, tu te retrouves avec des options payantes et je vois pas pourquoi l'IA échapperait à la règle. Et je pense que c'est même tout le contraire, sachant que de ce qu'on nous dit, ça utilise quand même beaucoup de ressources, donc ça coûte très cher à toutes ces boîtes, et donc tôt ou tard, il faudra un retour sur investissement.
Oui, c'est ça, il faut bien rentabiliser. Ouais. Après, on peut se demander, nous, dans l'écosystème Apple, par exemple, on a les appels d'urgence par satellite qui devaient être payants, enfin, ça a été sous-entendu que ça deviendrait payant, ça ne l'est toujours pas. On se demande si ça le deviendra. Est-ce que toi, tu serais prêt à payer pour cette fonction-là, si Apple te l'enlève le 31 décembre et te dit à partir de maintenant, c'est un abonnement ou je ne sais pas quoi?
Alors ça, c'est très intéressant, on débarque un petit peu, mais je pense qu'Apple ne peut en aucun cas rendre cette option payante. T'imagines le truc, on a retrouvé un mec mort parce que il avait pas l'option payante pour appeler un satellite.
Oui.
C'est inimaginable. Par contre, qu'Apple et c'est toujours la même histoire finalement, te disent alors je sais pas si c'est dans un forfait iCloud Plus ou autre chose. Et comme c'est le cas finalement pour un téléphone, c'est-à-dire tu peux appeler d'urgence à tout moment, mais par contre pour envoyer des SMS ou des messages à des amis, par contre tu payes. Ça, c'est pas possible.
Ouais. Oui, non, c'est vrai que ça pourrait se tenir, ouais. La bisbille entre Apple et Epic est loin d'être terminée. Au début du mois, l'éditeur de Fortnite a annoncé que son Epic Game Store avait été envoyé à Apple pour notarisation. Une dizaine de jours plus tard, il accusait publiquement Cupertino de lui mettre des bâtons dans les roues en refusant ses apps sans raison convaincante. Apple aurait par exemple invoqué un design de bouton trop similaire au sien pour télécharger des apps. Bon, c'est assez surprenant. Ce coup de gueule sur la place publique a fonctionné, étant donné qu'Apple a rétropédalé dès le lendemain en donnant son feu vert à la boutique d'Epic. Christophe, est-ce que tu penses que l'Epic Game Store va finir par arriver sur iOS et que Fortnite va revenir?
Bien sûr. Alors, tu sais que le 13 août, on va fêter ou non le 4e anniversaire du retrait de Fortnite sur l'App Store. Donc, et se dire qu'en 4 ans, enfin, je sais pas si beaucoup de monde aurait cru que, à cause d'Epic ou grâce à Epic, hein, le 13 août, donc ça devait être en 2020.
Oui, alors, ça doit être ça.
Si je me suis pas trompé dans mes calculs. Apple retire Fortnite de l'App Store, et donc voilà, 4 ans plus tard, Epic arrive, débarque sur les proches de débarquer sur les terminaux iOS avec un App Store rien pour lui. C'est quand même comme quoi, ça va pas vite, mais les choses ont quand même changé, hein, quoi qu'il en soit. Cette histoire, pour en venir, je sais pas si c'est pas une tempête dans un verre d'eau. On sait qu'Apple est pointilleuse et tatillonne quand on met une app, alors quand c'est un store, je ne peux pas imaginer. Enfin, je sais pas si on en a déjà parlé, mais par exemple, nous, lorsqu'on soumettait des mises à jour à une époque de l'application e-génération sur l'App Store, on mettait en place un filtre pour ne pas afficher les rumeurs et surtout pour ne pas afficher, et pourtant on peut pas dire qu'on en écrivait beaucoup, des news relatives au jailbreak, parce que là c'était vraiment c'était la ligne à ne pas franchir pour Apple, sinon on se faisait retoquer. Donc voilà, j'arrive pas à me faire un avis là-dessus. Alors, est-ce qu'Apple emploie effectivement une tactique dilatoire et ultra procédurale, ça c'est effectivement c'est possible. Mais est-ce que bon, Epic et puis alors Spotify également dans le même genre, est-ce qu'ils ne profitent pas de la moindre contrariété pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, sachant qu'Apple ne réagira pas? Et voilà, ça permet non seulement d'en plus de se mettre les internautes dans la poche et voilà, de dire à l'Union européenne, regardez.
Ouais.
Voilà, je sais pas exactement quand est-ce que la procédure a commencé, je sais pas ce qui est normal ou pas normal, sachant qu'en plus on est malgré tout dans des procédures qui sont complètement nouvelles, donc que ça soit long et laborieux, ça me choque pas plus que ça.
Après, ils avaient quand même été un peu de mauvaise foi quand ils avaient enlevé le compte, il me semble que c'était le compte développeur Epic qui avait été bloqué, et genre ils avaient râlé, et dès le lendemain c'était revenu. Il y a déjà eu un scénario un peu comme ça.
Ouais, c'est ça, mais c'est le côté, moi c'est ça qui me surprend, c'est que ça arrive toujours, 24 heures après. Je sais pas si on sait tout. Je sais pas si Apple est à ce point-là sensible aux réseaux sociaux. Sans quoi, en fait, ça serait beaucoup plus simple. Finalement, c'est très simple. Pour obtenir des avancées d'Apple, il suffit de se plaindre sur Twitter ou sur X. C'est un petit mystère pour moi. À la fin, je me fais aucun doute. À la rentrée, on aura Tim Cook qui présentera son nouvel iPhone et il fera une démo de Fortnite. Non, je déconne, mais on pourra l'installer en tout cas, d'une manière ou d'une autre, en tout cas en Europe.
Eh bien, merci Christophe pour ce petit tour d'actu de la semaine. Sortie de Veille va maintenant prendre une pause estivale et reviendra dès la rentrée.
Voilà, bonnes vacances à tous. Et puis, si l'actualité l'impose, on reviendra faire un petit tour, mais a priori, on se revoit effectivement...
C'est ça.
À la rentrée.
Et à plus Christophe.
Bon week-end à tous.
Et nous on se dit à la rentrée. Ciao ciao. Bye bye.